que votre journal va désormais plus loin que le papier, l'escouade journalistique 55 du Cantonnier vous présente sa version balado. Sujet d'actualité, rencontres et histoires locales, nous couvrons le territoire de la ville de Disraeli ainsi que certaines des municipalités de la MRC des Appalaches et de la MRC du Granit. Branchez-vous sur votre communauté.
En cette journée de la Terre 2026, nous avons la chance immense d'enregistrer notre balado au cœur d'un territoire d'exception, les sentiers pédestres des Trois-Monts de Coleraine. Nous tenons à remercier chaleureusement les gestionnaires de nous accueillir dans leurs locaux. Merci de protéger ce joyau de 1200 hectares et de permettre au public d'accéder à la réserve écologique de la Serpentine de Coleraine. Que ce soit pour le Mont Caribou ou les 20 km de sentier, ce site est une preuve vivante de l'importance de la conservation. On sent ici toute la passion de l'organisme pour préserver la biodiversité tout en favorisant les saines habitudes de vie. On vous invite à venir profiter du site situé au 6 route 112 à Saint-Joseph-de-Coleraine. Assurez-vous de consulter leur site web avant de vous déplacer pour bien planifier votre visite. Merci encore aux Trois-Monts et bonne journée de la Terre à tous. Alors, bonjour à notre balado concernant la Journée de la Terre 2026. Je suis André Grenier, je suis membre de l'escouade journalistique J55 du journal Le Cantonnier de Disraeli. En date du 22 avril, nous avons pensé faire un balado pour parler de la Journée de la Terre et des impacts que nous avons sur, par nos comportements sur notre milieu de vie, les milieux naturels. On a eu la grâce, la chance d'avoir les locaux et le centre d'accueil des sentiers des Trois-Monts de Saint-Joseph-de-Coleraine. On remercie les organisateurs. Et puis, pour la Journée de la Terre, j'ai des invités. J'ai deux invités, entre autres, Mme Anne Bolduc de l'organisme COGESAF, c'est bien ça. Et puis, j'ai aussi Mme Suzanne Saint-Pierre, qui est membre du CA de l'Association pour la protection du lac Elgin et qui est intervenante citoyenne également. Fait que nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de discuter un peu de la Journée de la Terre, voir comment on se situe là-dedans, comment on se perçoit aussi. Moi, en date du 15 avril dernier, j'ai publié un article dans le journal Le Cantonnier, dans la page de l'escouade. C'est la Journée de la Terre, moi et nous. Et puis, cet article-là parle un petit peu de notre impact sur notre environnement, sur la Terre, et puis des comportements qu'on a ou des choses qu'on pourrait changer, parce que c'est immense la Terre, et tous les impacts qu'on peut avoir. Nous, j'ai réussi, grâce à mon article, en lisant deux lectures de référence. Une de M. Jean-Marc Jancovinci et de Christopher Blanc, qui parle d'un monde sans fin, qui parle de l'énergie, toute l'énergie que nous avons besoin versus les énergies fossiles pour la construction, pour l'épanouissement de nos sociétés. Et l'épuisement également des ressources naturelles. Et j'ai aussi axé ma lecture sur un livre qui s'appelle « Comment garder espoir dans un monde en crise » concernant les changements généraux. Et puis, dans ce livre-là, il parle des dragons de l'inaction, et les peurs du changement, les croyances rigides, le stress quotidien, la foi aveugle dans la technologie miracle. Fait que l'objectif, aujourd'hui, c'est vraiment rester terre à terre, de parler de la terre, de parler de nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité une personne, Mme Bolduc, de venir nous présenter son organisme et de nous expliquer un petit peu les interventions qu'ils font en matière d'environnement, mais qui touchent, entre autres, le bassin versant de la rivière Saint-François. Alors, je vais demander à Mme Anne Bolduc de se présenter et de présenter son organisme.
Oui, bonjour. Bien contente d'être avec vous ce matin. En fait, donc, Anne Bolduc du COGESAF, l'organisme de bassin versant de la rivière Saint-François. Je suis biologiste et j'occupe là un poste de coordonnatrice de projet au COGESAF depuis 2019. Donc, qu'est-ce que le COGESAF, en fait? C'est, comme je disais, l'organisme de bassin versant de la rivière Saint-François. Un bassin versant, là, pour ceux qui seraient moins habitués là, d'entendre ce mot-là, c'est en fait c'est le territoire où toute l'eau qui va tomber sur le territoire, par exemple par la pluie, nos rejets, tout ça, vont se rendre dans ce bassin versant-là. Donc, par exemple, pour celui de la rivière Saint-François, c'est toute l'eau qui s'écoule vers la rivière Saint-François. Donc, l'organisme de bassin versant a été créé là, en 2002, donc il y a plus de 20 ans. En lien là, avec la loi sur l'eau, qui est une loi là, pour améliorer la gestion de l'eau au Québec. L'organisme fait partie des 40 organismes de bassin versant au Québec. Donc, dans le secteur ici, là, le territoire, la limite du bassin versant là, passe là, tout près de Disraeli. Donc, c'est l'autre organisme de bassin versant, Groubec, qui là, traite là, d'une partie du territoire, donc le bassin versant de la rivière Bécancour. Et notre organisme là, s'occupe de la gestion de l'eau sur le territoire de la rivière Saint-François. Plus précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner les acteurs de l'eau à améliorer leurs pratiques. Qui sont les acteurs de l'eau? C'est un petit peu tout le monde. Donc, les acteurs de l'eau, c'est ceux qui utilisent l'eau, qui ont des impacts sur l'eau. Et donc, ça touche vraiment tout le monde. On travaille principalement avec les organismes, donc les municipalités, les MRC, les associations riveraines, les regroupements de producteurs agricoles, producteurs forestiers, les organismes de récréotourisme, et j'en passe, là, donc vraiment tout le monde qui travaille sur le territoire pour améliorer les pratiques. Donc, le territoire là, du bassin versant de la rivière Saint-François, c'est un très grand territoire quand même. Là, c'est plus de... Ben, c'est environ 9000 km² au Québec, puis une partie là, au Vermont. Si on pense, par exemple, au bassin versant du lac Memphremagog, qui s'écoule vers la rivière Saint-François et qui débute au Vermont. C'est 12 MRC qui sont sur le bassin versant de la rivière Saint-François, une centaine de municipalités dans trois régions, donc le centre du Québec, l'Estrie et Chaudière-Appalaches. Et c'est plus là, de 400 000 habitants, là, approximativement, là, qui vivent dans le bassin versant de la rivière Saint-François. La rivière Saint-François, c'est la principale rivière qui part là, tout près d'ici au Grand Lac Saint-François et au lac de Tête, là, au lac qui s'écoule vers le Grand Lac Saint-François, et qui va s'écouler jusqu'au fleuve Saint-Laurent, à la hauteur du lac Saint-Pierre. Donc, c'est plusieurs grandes rivières qui vont s'y jeter dans la rivière Saint-François. On pense, par exemple, à la rivière Itun, à la rivière Aux-Saumons, à la rivière Ulvertun, à la rivière Magog, rivière Coaticook, et j'en passe.
C'est immense, votre terrain.
C'est immense. C'est beaucoup d'enjeux différents également, donc on pourra en parler tout à l'heure. Mais c'est aussi là, plusieurs lacs, tout près d'ici, on pense au Grand Lac Saint-François, lac Elmer, lac Elgin, la rivière Coleraine, par exemple. Donc, il y en a, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de cours d'eau, et ça, c'est les plus grands, mais il faut penser aux tout petits aussi, là, qui se jettent dans la rivière Saint-François et ultimement dans le fleuve Saint-Laurent. Donc, notre organisme sert vraiment à mobiliser les acteurs de l'eau à passer à l'action. Donc, on est dans la mobilisation, de nommer les enjeux, de faire de la sensibilisation, d'expliquer c'est quoi les problématiques sur le territoire, puis d'aller vers les solutions, de nommer les solutions aussi qui peuvent être prises en charge par les différentes personnes, les différents organismes. Donc, chacun a son rôle à jouer d'une façon différente. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner là-dedans là, les différents acteurs de l'eau. On est un organisme sans but lucratif, donc on mène des projets également. Donc, on a des projets très diversifiés, autant pour améliorer la qualité de l'eau, pour travailler sur des habitats d'espèces aquatiques ou riveraines, là, par exemple, des tortues ou des salamandres, des poissons, évidemment. Et on a beaucoup de projets, par exemple, de gestion durable des eaux de pluie. Donc, ça, tout à l'heure, on va y revenir assurément. Mais donc, vraiment, beaucoup de projets. Puis, dans notre équipe, on est principalement des biologistes, mais on a aussi là, une équipe terrain. On a des personnes qui font de la géomatique, donc des cartes, de l'analyse de données. On a des personnes en communication, en mobilisation. Donc, on est vraiment une équipe là, multidisciplinaire pour vraiment accompagner les gens sur le territoire.
En quantité de personnes, vous êtes combien dans votre organisme? Parce que c'est un grand territoire avec plusieurs MRC puis population quand même. Là.
Oui. Oui, on est actuellement, là, on est 11 personnes à temps plein. Ça a vraiment augmenté dans les dernières années. Là, on a eu la chance de développer beaucoup de projets, de faire beaucoup de partenariats avec les organisations sur le territoire. Puis ça l'a mené là, justement à être capable de monter une équipe quand même assez grande. Là. Il y a quelques années, c'était comme moins de 5 personnes. Ouais. Puis là, on est rendu beaucoup plus. Donc, ça permet de vraiment diversifier nos connaissances, aussi l'accompagnement qu'on peut offrir, de se diviser aussi un petit peu le territoire, là, parce qu'on ne peut pas tout connaître partout, sur tous les sujets, et rencontrer tout le monde en même temps, ça ne serait pas possible. Donc, on est vraiment une équipe qui s'est partagé le travail, puis on travaille là, vraiment en collaboration avec les organismes du territoire et à l'interne là, dans notre équipe.
J'aimerais ça que vous puissiez nous donner un exemple de travail que vous faites avec les associations riveraines dont je fais partie.
Oui, on a un projet, en fait, qui s'appelle Sentinelle des lacs, dont le lac Elgin fait partie. Donc, c'est un projet où on fait vraiment appel là, à la science citoyenne. Donc, on fait appel à une sentinelle par lac du territoire, qui est une personne bénévole, qui se porte volontaire, puis qui va nous recenser là, les observations de cyanobactéries, donc les algues bleu-vert qu'on appelle. Donc, qui peuvent être dangereuses pour la santé. On ne veut pas se baigner là, lorsqu'il y a des algues bleu-vert dans un lac. Donc, la sentinelle va être la personne qui va nous relayer l'information. Puis nous, on va pouvoir guider là, les interventions s'il y en a à faire. Par exemple, soit accompagner l'association riveraine pour sensibiliser ses membres ou signaler à la municipalité si dans le cas qu'une plage privée, bien, une plage publique, pardon, et qu'il faudrait fermer la plage, on va pouvoir là, nommer ça. Puis la sentinelle, elle peut être accompagnée par plusieurs observateurs et tout ça. Là, c'est la personne qui nous fait le relais de l'information. Oui, fait que ça, c'est un des projets. Puis à chaque année, on offre une formation à nos sentinelles et aux observateurs sur les cyanobactéries et d'autres phénomènes qu'on peut observer dans les lacs, comme les fameuses espèces exotiques envahissantes qu'on entend parler. Donc, on offre une formation pour que les gens soient capables de les reconnaître ou du moins se questionnent quand ils voient quelque chose d'un petit peu particulier, unique, de se demander est-ce que c'est normal ou pas. Donc, on veut leur rendre les gens un petit peu plus autonomes là-dedans.
Question concernant le projet Sentinelle que vous avez développé. Ce n'est pas nécessairement des gens qui sont membres d'une association. Ça peut être tout riverain qui est intéressé à l'environnement, qui s'implique.
Oui, tout à fait. Ça peut même être quelqu'un qui ne serait pas riverain, mais qui profite d'un plan d'eau. Donc, c'est sûr que plus la personne va sur le plan d'eau, plus c'est facile là, de noter les observations, d'observer des algues bleues ou des phénomènes particuliers. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des riverains ou des gens de l'association riveraine. Mais n'importe qui pourrait devenir la sentinelle d'un plan d'eau si, par exemple, il se dit « ben moi, j'y vais à toutes les semaines sur ce plan d'eau-là, même si j'habite un petit peu plus loin. » Puis, je pourrais vous signaler si je vois des choses, bien, c'est super. Donc,
c'est les yeux et les oreilles de votre organisme pour être capable d'intervenir plus rapidement, ramasser de l'information, puis après ça, être capable de vous, via votre formation, la traiter puis l'analyser, puis de porter un jugement.
Tout à fait. Même si on est 11 personnes, on n'est pas capable d'être partout, de voir tout. Puis, les citoyens, c'est vraiment les meilleures personnes pour observer les changements aussi. Tu sais, c'est leur quotidien. Ils voient lorsqu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont pas normales.
Et on panique quand on voit des choses qui sont pas habituelles. Comme riveraine, là, ça m'arrive de... Est-ce que c'est des algues bleu-vert?
Oui, puis dans plusieurs cas, les signalements qu'on reçoit, par exemple, d'algues ou de plantes aquatiques, des choses comme ça, c'est des phénomènes qui sont normaux, qui sont pas dangereux, qui sont pas envahissants, qui sont pas exotiques, là, qui sont vraiment tout à fait normales dans un lac. Mais c'est important, justement, d'augmenter la sensibilisation qu'on fait, puis les connaissances aussi que la population a et les organismes aussi là, pour s'assurer que justement qu'on panique pas trop puis qu'on comprenne bien c'est quoi le fameux cycle de l'eau là, où on pense à la pluie, l'évaporation et tout ça, mais c'est de comprendre aussi qu'un lac, c'est normal que ça change, c'est normal que ça bouge dans le temps et que c'est dépendant là, de ce qui se passe aussi avec le climat. Donc, c'est de prendre tout ça en compte. Puis nous, on est là pour vulgariser aussi ces éléments-là, de prendre ce qui peut être plus complexe, la science, et de le rendre un petit peu plus abordable pour tous.
Est-ce qu'on peut faire appel à vous autres directement si on observe ou s'il faut passer par le sentinelle?
Idéalement, on passe par la sentinelle parce que, en fait, on a là une personne, c'est-à-dire moi, qui s'occupe des signalements. Donc, je ne pourrais pas là, répondre à tous les signalements de tous les citoyens. Et aussi, souvent, on va avoir le même signalement plusieurs fois. Okay. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver.
Sûrement.
Tout le monde a vu la même chose, puis ils vont nous le signaler 6 fois, alors que la sentinelle, elle, va nous le signaler une seule fois parce qu'elle va requérir l'information.
Ce projet Sentinelle-là, ce qui s'applique également sur, sur les rivières que, qui desservent le bassin versant?
Oui, nous, on recrute principalement pour les lacs, mais c'est vraiment une question de... En fait, d'opportunités, puisque les lacs ont des associations riveraines. Okay. Les rivières, très peu.
C'est
donc,
vrai.
On n'a pas beaucoup là, d'exemples de rivières où il y a des associations. Il y a l'association, par exemple, de la rivière Saint-François dans le secteur de Dodwell. Eux font partie de, des Sentinelles. On a la rivière Magog, là, plus dans le coin de Sherbrooke, où il y a aussi des associations pour la rivière et font partie du projet Sentinelle. Donc, c'est plus facile là, de recruter de ce côté-là parce que nous, on ne va pas envoyer des courriels à toute la population ou appeler toute la population.
Mais c'est une belle façon de s'impliquer. On parlait d'action ou d'inaction là, par rapport à l'environnement. Je reste sur le bord d'une rivière ou d'un lac. Comme citoyen, j'ai les yeux et les oreilles, je suis capable de prendre l'information et la relayer à quelqu'un qui va être capable de l'analyser comme vous êtes capable de faire en fonction de votre expertise.
Oui, puis les gens qui veulent s'impliquer, ils peuvent aller sur notre site Internet là, du COGESAF. On a une page pour le projet Sentinelle, puis on peut s'inscrire comme la Sentinelle.
Okay.
Donc, lorsqu'on s'inscrit, nous, on peut dire si oui ou non, il y a déjà une Sentinelle. Puis s'il y en a déjà une, mais à ce moment-là, on peut faire le lien entre les personnes pour qu'ils puissent le signaler à leur Sentinelle qui va nous relayer. Là, le but, c'est pas qu'il y ait trop d'intermédiaires,
non, c'est
qu'il y ait un seul intermédiaire qui est la Sentinelle.
C'est ça.
Ouais. Alors, vous intervenez au niveau des lacs avec les associations. Au niveau des bassins versants, tout ce qui se déverse finalement dans le lac, vous intervenez aussi au niveau des coupes forestières. Est-ce que c'est juste?
Oui, on travaille vraiment, nous, notre façon de travailler, là, tous les organismes de bassin versant au Québec, là, ça le dit dans notre nom, on travaille par bassin versant. Donc, pour nous, les limites administratives de municipalité, MRC, région, ça existe pour l'entité qu'il faut contacter, mais ça n'existe pas pour l'eau. Là. L'eau, elle ne va pas s'arrêter à la limite. Donc, nous, on travaille. En fait, le lac, c'est la finalité. Là. Le lac et la rivière.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment tout le trajet de l'eau qu'on suit. Puis, avec les données, par exemple, de qualité de l'eau ou d'observation comme les cyanobactéries, les algues bleues vertes là, par les sentinelles, ça nous permet de venir identifier des secteurs qui sont peut-être plus préoccupants où il y aurait besoin d'actions plus spécifiques, puis de venir identifier ça pourrait être quoi les actions à poser, puis quels acteurs de l'eau, là, que je le mets tout à l'heure, qu'on peut rejoindre, puis essayer de sensibiliser, d'informer aussi, parce que parfois, on n'est juste pas conscient là, que l'activité qu'on fait peut avoir un impact sur l'eau, mais l'eau est vraiment partout, puis on peut avoir un impact là, important.
Depuis la loi de l'eau que vous disiez tantôt, tout le territoire québécois a été divisé par bassin versant. Nous, ici, on a le gros bec qui se trouve être le bassin versant du bassin du versant de la zone de Bécancourt. Donc, l'eau qui tombe dans la montagne ici, au Serpentin, là, elle, normalement, est considérée que s'en aller dans la rivière Bécancourt, s'en aller jusqu'au fleuve par ce côté-là. Du côté du lac Saint-François, toutes les montagnes, le mont Attitoc, cette eau-là qui part, qui tombe sur le mont Attitoc, s'en va dans les lacs et les rivières et dans la rivière Saint-François jusqu'au fleuve Saint-Laurent.
Oui.
Fait que c'est vraiment vraiment comme une autoroute de l'eau, là.
Oui, tout à fait. On a des petites routes, des grandes routes, des autoroutes. c'est vraiment
ça.
Exactement ça. Puis, tu sais, il faut garder en tête aussi que ceux qui sont plus loin dans le bassin versant vont subir les impacts de ce que nous, on produit aussi.
C'est ça.
Donc, oui, il faut penser à notre qualité de l'eau, par exemple, localement, si on pense à notre lac, à notre rivière, à notre milieu humide aussi, parce que ça en fait partie, là, de zones avec de l'eau qu'il faut protéger.
Ouais.
C'est vraiment là, des secteurs là, qu'il faut prendre en compte que plus loin, il va y avoir d'autres personnes. Comme on voudrait que nous, les gens avant nous aussi, fassent attention dans le bassin versant. L'exemple qu'on donne souvent, c'est que, ben, par exemple, la prise d'eau potable de Drummondville, elle est dans la rivière Saint-François.
Hein, pour
donc, toutes les personnes, oui, donc toutes les personnes qui sont avant Drummondville, c'est-à-dire la grande, grande, grande majorité du territoire, a un impact sur la qualité de l'eau, de la prise d'eau potable de Drummondville. Donc, ça, c'est un des exemples. Il y en a plein comme ça qu'on pourrait nommer.
Oui, effectivement. Puis, la goutte d'eau qui tombe là, du ciel, qui tombe sur la montagne, et puis moi qui est propriétaire d'un lopin de terre, puis qu'il y a une forêt, si je rase la forêt à zéro, bien, tôt ou tard, cette forêt-là qui n'existe plus, bien, je n'ai pas considéré ça. Il y a du sable, des résidus végétaux qui peuvent s'en aller dans la rivière, dans le ruisseau, parce que j'ai coupé sur le bord de la rivière, puis ça s'en va dans la rivière, et ça s'en va dans les lacs, etc., etc.
Oui, c'est un des impacts là, principaux qu'on peut avoir en tant que citoyen. Vraiment, l'eau qui va tomber sur notre terrain, comment on la gère. Ça s'applique vraiment à tout le monde. T'sais, autant, on travaille beaucoup, comme je disais tantôt, avec les producteurs agricoles, les producteurs forestiers, qui, eux, ont souvent des plus grandes terres. Mais en tant que citoyen, ayant une propriété moyenne, là, on a aussi un impact. Si on s'assure pas que l'eau qui s'écoule de notre terrain est faite de façon là, adéquate, si on pense, par exemple, aux gouttières, l'eau qui s'écoule de nos gouttières, est-ce qu'elle s'écoule directement dans la rue? Est-ce qu'elle s'écoule? Est-ce qu'on est capable de la gérer sur notre terrain pour qu'elle, par exemple, aille alimenter notre plate-bande, notre jardin? Réutiliser cette eau-là puis qu'elle ne s'écoule pas toute vers le lac? C'est sûr que ça a un très grand impact. Puis le phénomène que vous parliez, là, ça s'appelle le ruissellement. Donc, c'est l'eau qui va s'écouler sur le terrain puis qui va apporter avec elle ce qu'elle va rencontrer. Donc, si, par exemple, on a des polluants, des pesticides, par exemple, c'est une autre chose. C'est des éléments qui vont être traînés dans l'eau puis qui vont terminer dans la rivière, puis dans le lac, puis dans le fleuve. Donc.
Vous écoutez le balado de l'escouade journalistique du journal Le Cantonnier de Disraeli. Notre invité, Anne Bauduc, biologiste de l'organisme Conseil de gouvernance de l'eau du bassin des versants de la rivière Saint-François. On poursuit notre écoute.
C'est excellent. Là, on parle, on a commencé à expliquer ton organisme, mais j'aimerais ça ici que Suzanne, à côté de moi, Suzanne Saint-Pierre, qui est quand même intervenante citoyenne du milieu, intervenante. J'aimerais ça qu'elle se présente là, pour qu'on puisse savoir associer la voix à la personne.
Moi, je suis riveraine Olakelgin. Ça fait 60 ans que mes parents avaient acheté un terrain et maintenant, je suis résidente permanente. Je fais partie de l'association pour la protection du lac Elgin depuis, 10 ans certainement. Et je prends conscience de plus en plus de l'impact qu'on peut avoir sur notre lac et je souhaite le préserver pour nous, mais aussi pour les enfants, les petits-enfants qui viennent et qui puissent profiter eux autres aussi d'un lac, parce que le lac Elgin est merveilleux. Qui puissent profiter de cette richesse naturelle aussi.
Parce que les enjeux de l'eau, ça, on a tous besoin de l'eau pour vivre. Et moi, je voulais savoir, ça signifie quoi la journée de la Terre pour un organisme comme ton organisme à toi? Là? En plus, vous êtes formé en biologie, ces choses-là. Là. Ça signifie quoi comme biologiste et comme citoyenne?
Le jour de la Terre, je dirais que c'est surtout une opportunité de parler de l'environnement, de parler de nos impacts, de parler des solutions surtout. C'est un sujet qu'on devrait parler au quotidien. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. Mais c'est la profession, là, donc ça fait partie de notre quotidien. Mais c'est vraiment une belle opportunité de mettre les sujets de l'avant. Les gens, souvent, vont être plus portés à aller s'informer, à lire les documents sur ça. Puis aussi, au jour de la Terre, c'est souvent plus des informations qui touchent vraiment les gens. Nous, dans nos journées quotidiennes, on va, comme je disais tout à l'heure, plus communiquer avec les organisations, les municipalités, les MRC. T'sais, souvent, on parle déjà avec des gens qui sont informés, qui connaissent ça, qui ont un certain... Bien, c'est leur emploi, en fait. Là, souvent, par exemple, les inspecteurs municipaux, ils connaissent déjà les enjeux. Mais le jour de la Terre, c'est l'opportunité de venir parler aux citoyens directement puis de venir vulgariser encore plus des problématiques qui les touchent puis des solutions qu'ils peuvent mettre en place. Donc, c'est surtout ça, là, le jour de la Terre pour nous. Mais, comme je disais, là, les gestes doivent assurément être faits au quotidien. Je pense que c'est la seule façon là, d'arriver à faire des changements qui vont vraiment être perceptibles.
En fait, ce serait le jour de la Terre tous les jours.
Oui, exact. au Québec, là, depuis quelques années, il y a le mois de l'eau, qui est le mois de juin. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça fait quand même plusieurs années. Ça commence là, à être un petit peu plus connu, mais c'est vraiment tout un mois qui est dédié à l'eau. Donc, chacun des organismes de bassin versant et leurs partenaires organisent des activités sur leur territoire pour sensibiliser, pour informer, pour passer à l'action. Donc,
la journée de l'eau.
Le mois de juin. Donc, ça sera là, une super opportunité là, de vous informer sur les activités qui se passent là, dans votre bassin versant puis de voir comment vous pouvez vous impliquer là-dedans.
Parce que l'eau, on commence à entendre parler de l'affaiblissement des rivières, la baisse des niveaux des eaux dans les rivières, même l'Hydro-Québec dans les bassins d'Hydro-Québec. Les mappes phréatiques qui baissent aussi. L'année passée, j'ai parlé avec des gens, là, puis beaucoup de gens avaient fait recreuser leur puits parce que tout le système hydraulique souterrain qu'on ne connaît pas nécessairement, avec la surconsommation. J'ai parlé avec un agriculteur une fois qui voyait de la différence au niveau des puits, des surfaces pour alimenter son bétail, puis la sécheresse aussi, là, c'est toutes ces choses-là. On les observe de plus en plus.
Oui, c'est une des problématiques là, qui a été identifiée, entre autres, par les organismes du bassin versant de la rivière Saint-François, les problèmes d'approvisionnement en eau. Là, en effet, on entend de plus en plus parler de municipalités, par exemple, qui ont dû faire venir des camions d'eau parce qu'ils ont manqué d'eau lorsqu'il y avait des réseaux d'aqueduc, sinon des propriétaires privés. Puis en effet, là, les puits de surface, c'est sûr qu'ils sont les premiers touchés. Là, c'est beaucoup plus sensible que les puits artésiens. Les puits d'eau souterraines, mais même les puits d'eau souterraines, là, il y a eu beaucoup de difficultés. Puis c'est des choses qui sont assez variables, qui sont très dépendantes de plusieurs facteurs, entre autres la quantité de neige qui tombe à l'hiver, mais plusieurs autres facteurs là, qui sont très variables en ce moment avec le climat.
OK. Avec les municipalités, au niveau des changements versus ton travail que tu as observé envers les municipalités, qu'est-ce que tu vois là, au niveau des municipalités? As-tu des choses qui ont changé dans l'approche que vous avez, la réceptivité des...
Oui, bien, on a vraiment beaucoup de municipalités. En fait, l'ensemble des municipalités sont très collaboratives. Là. C'est très rare que c'est difficile. Généralement, les municipalités, en fait, ont de plus en plus de rôles à jouer, mais n'ont pas nécessairement les ressources là, pour le faire. Donc, nous, on essaie de venir en soutien pour les aider, que ce soit par le partage de connaissances ou des fois les accompagner vraiment dans le choix, vraiment dans des choix, par exemple, de priorités ou des actions à mettre en œuvre. Quand on pense aux municipalités, bien, tout de suite, ça me fait penser à, par exemple, la voirie. On peut le faire là, selon des bonnes pratiques. Mais c'est pas nécessairement facile, surtout si on donne, par exemple, des contrats et tout ça. On n'a pas nécessairement tout le temps le pouvoir. Nous, on est en accompagnement là, dans les différentes choses qui peuvent être...
Est-ce que tu pourrais donner un exemple concret du lien avec la voirie? Parce que c'est pas évident pour bien des gens, là.
Oui, exactement. En fait, par exemple, une route de terre vis-à-vis une route d'asphalte, là, ça joue un rôle différent. La route de terre va avoir des avantages qui va permettre à l'eau de s'absorber dans le sol. Donc là, on va penser plus à justement la recharge de la nappe phréatique, alimenter l'eau souterraine, ça va avoir des bons rôles. Mais en contrepartie, un des rôles un petit peu plus difficiles, c'est que ça va apporter justement les petites particules vers les cours d'eau et les lacs.
À cause des fossés?
Oui, exact. Ça va se rendre dans les fossés, puis les fossés, après ça, ils vont se rendre directement souvent dans les cours d'eau. Donc, il y a des bonnes pratiques pour la gestion des fossés. Donc, quand ils vont creuser les fossés, ça doit être fait d'une certaine façon. On ne va pas vouloir les creuser chaque année. On ne va pas vouloir les enlever toutes les plantes qui sont dans le fossé chaque fois, parce que là, eux, les végétaux, en fait, servent à absorber l'eau, les polluants, les contaminants. Donc, il y a vraiment des bonnes pratiques pour ça. Puis c'est important de les appliquer, mais c'est pas toujours évident. Des fois, c'est ça, c'est vraiment une question de main-d'œuvre, de connaissances. Donc, nous, on est
de
là
sécurité,
pour
la sécurité aussi routière, il faut qu'ils s'ajustent en fonction de,
ouais,
de ça.
Oui, puis de gestion aussi. Des fois, là, les fossés ne sont pas adaptés à la quantité d'eau qui, finalement, arrive. Les ponceaux, même chose, sont souvent... C'est des ponceaux qui datent de plusieurs années, puis on n'a pas pris en compte, entre autres, les changements climatiques, puis les gros coups d'eau qu'on a. Fait que ça crée des difficultés là, à ce niveau-là. Maintenant, lorsqu'ils changent les ponceaux, c'est pris en compte... Là, il y a tout le temps comme le ponceau est grossi un petit peu en termes de, c'est ça, de rayons là, pour s'assurer qu'on prend en compte les changements climatiques puis les pluies extrêmes qui peuvent survenir.
Les utilisateurs, là, les gens de 55 et plus, as-tu remarqué un changement d'attitude, de comportement face à l'environnement? As-tu plus de réceptivité que les gens ont par rapport à il y a peut-être 5, 10 ou 15 ans, 20 ans?
Ben, je dirais, c'est sûr que là, moi, comme je disais, je suis seulement au Cogesaf depuis 2019, mais quand même, je vois une ouverture qui, je crois, a toujours été là, mais qui est peut-être un petit peu plus grande, on en parle plus, c'est un sujet un petit peu plus qui circule dans les médias, qui circule, tu sais, entre les gens, on a plus conscience de façon générale. Aussi, les enfants, dès leur jeunesse, sont habitués à ça. C'est un discours aussi qui apprennent à l'école, puis qui voient autour d'eux.
Ils ramènent aux grands-parents.
Exact. Oui, exactement.
Ils reviennent avec des petits commentaires, dire, mais ça,
oui, de dire, ça c'est bien, ou ça, j'ai appris que ça se passe comme ça. Puis des fois, c'est quelque chose qu'on savait pas ou qu'on n'avait pas nécessairement conscience. Fait que ça, c'est sûr que ça a là, une importance. Puis c'est sûr que je dirais que les personnes de 55 ans et plus, ça fait partie de une très grande partie là, des partenaires avec lesquels on travaille, entre autres par les associations riveraines. Les associations riveraines, c'est des gens bénévoles qui
sont souvent à la retraite.
Qui sont souvent à la retraite, exact. Qui ont eu la chance aussi là, d'avoir une résidence sur le bord des plans d'eau. Donc ça, c'est vraiment... C'est vraiment super. Donc, nous, c'est des partenaires vraiment idéaux, là, parce que c'est ça, ils veulent s'impliquer aussi. Ils ont un petit peu de temps à y consacrer. Donc, c'est vraiment des partenaires avec qui on travaille beaucoup. Puis, dans les organisations avec lesquelles on travaille, il y en a beaucoup aussi, là. On passe à des producteurs agricoles, dans les municipalités, les MRC, donc c'est vraiment très
intéressant. Ça semble impliquer de plus en plus les producteurs agricoles aussi, à cause que souvent, ils ont des champs sur le bord des fossés, les rivières,
ouais,
les ruisseaux, puis etc.
Oui, les producteurs agricoles, là, de plus en plus, les bonnes pratiques sont vraiment bien, bien expliquées, ils ont de l'information, sont bien outillés, sont bien accompagnés aussi dans la plupart des cas là, avec leurs conseillers. Puis ils font vraiment partie de la solution là. C'est vraiment notre garde-manger là. C'est notre alimentation. Si on veut pouvoir se nourrir, surtout localement, on a besoin de ces terres-là. On a besoin qu'elles soient cultivées. Puis il y a des bonnes pratiques qu'ils peuvent mettre en place. Puis la grande majorité les connaissent, puis d'en mettre en pratique. Ce n'est pas des choses qu'on voit nécessairement tous les jours parce que c'est assez technique aussi. Puis dans la plupart des cas, ça va demander des modifications de culture, de pratique ou de grosseur.
De type d'agriculture.
Oui, exact. Ça va peut-être demander de diminuer un petit peu la taille du champ pour pouvoir mettre des végétaux en bordure de fossé ou de
poteaux. Bandes riveraines un peu plus loin.
Exact, les fameuses bandes riveraines qui devrait être présente partout, mais c'est pas évident quand c'est ton gagne-pain, c'est ta terre, ça a des implications.
On veut pas imposer, ok, ça, faut que tu changes ça, ce comportement-là. Il y a des coûts reliés à ça, puis c'est ma propriété. On a beaucoup, dans notre société, la notion de propriété, ça m'appartient, puis... Mais ça ne s'arrête pas à la rivière.
Non, c'est ça. Puis c'est pas facile pour un propriétaire riverain d'avoir une bande riveraine adéquate là, qui va vraiment permettre de ralentir l'eau, d'assurer la filtration aussi par les végétaux. Donc, encore moins pour un producteur agricole que c'est son terrain, mais en plus, c'est son revenu, c'est son travail, c'est son milieu de vie. Donc là, c'est encore plus d'implication.
Donc... On est tous interreliés dans la Terre. Mais... C'est ça qu'on se rend compte. La Terre, oui. Les écosystèmes sont interreliés, mais nous aussi, on est tous interreliés dans les actions qu'on fait. Ça a un impact.
Mais je suis contente d'entendre qu'une majorité d'agriculteurs sont ouverts et posent des gestes concrets pour protéger.
Oui, puis à la hauteur de toutes nous, là, de citoyens, il y en a qui vont faire des plus petits gestes, il y en a qui vont faire des plus grands gestes, mais chacun, il va avec où il est rendu aussi dans le processus là, d'être sensibilisé à l'enjeu, puis de la compréhension aussi de son impact. Puis c'est pas toutes les productions non plus qui ont des impacts là, très grands ou sur les cours d'eau, par exemple. Ou, c'est vraiment pas... On peut pas mettre tous les gens dans les mêmes paniers, mais on peut pas mettre tous les producteurs ou toutes les municipalités ou toutes les associations dans un même panier non plus. C'est vraiment à la pièce.
Au niveau des défis environnementaux locaux là, dans la région, si on parle, mettons, pour tout le monde connaît ici le lac Elmer ou le Grand Lac Saint-François, là, quel défi environnemental a été fait depuis les 5-10 dernières années que vous avez senti qu'il y a eu un pas vers en avant? Au niveau de l'environnement, c'est un gros lac, c'est un bel, ça fait partie du parc Frontenac aussi, là, le Grand Lac Saint-François. Y a-tu quelque chose que depuis faut faire 7 ans à peu près que tu travailles pour l'organisme, qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça?
Bien, les défis rencontrés, je dirais que c'est toujours les mêmes, mais qui varient un petit peu dans le temps. La qualité de l'eau, c'est sûr que c'est une préoccupation centrale. Puis, dans les 5, 10 et même plus dernières années, il y a beaucoup, par exemple, de données de qualité de l'eau qui ont été prises pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, il y a beaucoup d'activités de concertation. Nous, on en a fait, mais il y a plein d'autres organismes là, qui se mettent ensemble et qui essaient de trouver des solutions. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Puis aussi, je dirais, les espèces exotiques envahissantes, c'est un phénomène pas nouveau parce que ça fait longtemps que ça existe, mais on est plus sensibilisés, les gens sont plus habitués de les reconnaître aussi, puis ils connaissent mieux les impacts.
Excusez-moi, vous parliez des algues bleu vert. Y a-t-il d'autres espèces exotiques envahissantes qui vous inquiètent?
Oui, les algues bleu vert, c'est pas une espèce exotique envahissante, c'est normal qu'il y en ait dans les lacs. S'il y en a dans tous
c'est
les lacs
au
monde. Oui, exactement. C'est la concentration qui va avoir un impact puis qui va rendre ça... qui peut avoir un impact sur la santé parce qu'ils vont avoir des toxines qui vont être émises par ces algues bleu vert. Les espèces exotiques envahissantes, qui sont des espèces qui viennent d'ailleurs, qui sont pas, qu'on n'est pas censé retrouver dans nos cours d'eau, qui ont été apportées parfois par l'homme, très souvent par l'homme, je vais dire, par l'humain, là, mais dans d'autres cas, par les animaux, par juste les changements climatiques, le fait que les températures se réchauffent. Naturellement, certaines espèces vont migrer, par exemple des États-Unis vers le nord, puis vont se retrouver dans nos plans d'eau. Donc, naturellement, ça va se faire par les changements climatiques. Mais celles qui sont transportées, bien, c'est sûr qu'il y a la moule zébrée qui est assez préoccupante parce qu'elle a un impact assez important sur les cours d'eau, du fait qu'elle se reproduit très, très vite. Elle va filtrer l'eau, donc on peut se dire « Ah, c'est super », mais elle va tellement filtrer l'eau qu'il n'y aura plus de nutriments pour alimenter les autres organismes, les végétaux, par exemple. Puis elles vont se fixer sur les moules qui sont indigènes, donc qui sont natives là, de nos lacs. Elles vont se fixer sur leur carapace, puis les moules pourront plus s'ouvrir et se nourrir. Ah. Donc, elles vont mener là, via ça à la perte de nos moules indigènes qui sont normales dans nos plans d'eau. Donc, ça a des impacts négatifs.
Quand on parle d'indigène, c'est une plante ou un organisme vivant qui est originaire de l'environnement.
De ce secteur-là, que c'est normal qu'on retrouve. Puis on a des espèces qu'on va retrouver dans certains lacs et pas dans d'autres. Il y en a qui sont vraiment plus uniques, tandis qu'il y en a qu'on retrouve dans tous les plans d'eau, ou presque, là, du Québec. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que c'est sûr que la moule zébrée, c'est une espèce qui est préoccupante. Elle a des impacts assez importants aussi sur les prises d'eau potable, parce qu'elle est tellement petite qu'elle passe dans les grillages. Puis les larves aussi, dans le fond, ça se reproduit, là, des petites larves qu'on ne voit pas vraiment à l'œil. C'est comme ça souvent qu'elles sont transportées aussi là, sur nos embarcations et tout ça. Et ces larves-là vont passer dans les grillages, puis vont passer dans les conduites, puis vont se rendre ultimement là, à la station d'épuration, bien, la station de traitement des eaux, de l'eau potable. Donc, ça peut avoir un impact là, sur la machinerie. Il va falloir avoir des traitements supplémentaires. Ça coûte très cher, exactement. Donc, les impacts sont vraiment multiples. Pour les autres espèces, là, c'est sûr qu'il y a des espèces qui peuvent avoir des risques pour la santé. On parlait tout à l'heure, justement, des risques pour la santé. Il y a, par exemple, la berce du Caucase, qu'on retrouve quand même dans la région ici, là, en Chaudière-Appalaches, qui est fortement présente quand même.
La quoi, là?
La berce du Caucase, qui est une plante qui n'est pas nécessairement dans l'eau. On la retrouve, en fait, qui n'est pas dans l'eau.
Sur les rivages.
Sur les rivages, dans les fossés. C'est une plante qui vient
là,
très, très grande.
Sur le poil en haut, là, c'est
non,
ça?
Non, ça, c'est le phragmite, ça. Ouais, la berce du Caucase, elle fait des grosses feuilles, des grosses fleurs blanches.
OK.
Puis c'est une plante, en fait, que la sève va brûler. Donc, on ne s'en rend pas compte sur le coup, mais lorsqu'elle est exposée au soleil, ça va faire vraiment des grosses brûlures.
Okay,
donc,
oui,
c'est une espèce qui a vraiment des projets de lutte. Là. C'est une espèce qui est signalée aux municipalités, aux ministères, puis que généralement, les municipalités vont engager, par exemple, une firme ou un organisme pour aller les arracher là, parce qu'il faut vraiment des habits.
Quand on parle d'un comportement, d'une action à faire, là, c'est... si on parle de conserver de la qualité d'eau, là, de glisser un mot sur les embarcations, les accès à l'eau, le lavage des embarcations, ça fait partie d'une belle solution qu'on doit tous individuellement appliquer.
Oui, le lavage d'embarcations, c'est vraiment c'est la solution.
C'est pas superflu, ça, là. C'est
non,
vraiment
pour
des
les espèces.
Là-dessus.
Oui, pour les espèces exotiques envahissantes, en fait, malheureusement, il n'y a aucune étude ou très peu qui... démontre qu'on peut lutter, là, enlever, éradiquer une espèce exotique envahissante d'un plan d'eau. Ça peut se faire, mais c'est dans des cas très spécifiques où c'est vraiment qu'il n'y en a pas beaucoup encore, puis certaines espèces. Mais dans la majorité des cas, c'est vraiment la prévention qui est la clé.
Et le contrôle.
Oui, on peut contrôler certaines espèces. Surtout pour retrouver certains usages. Si par exemple, je sais qu'on parle beaucoup du myriophylle à épi dans la région. C'est une plante qu'on ne va pas éradiquer, là. En tout cas, ça serait vraiment très surprenant. Mais on peut la contrôler, par exemple, près d'une plage. Mais c'est ça, en fait, c'est de peser le pour et le contre, de se dire, est-ce qu'on veut investir? Est-ce que c'est ça la priorité? Pour le lac, est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on veut investir? Après ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Là. C'est vraiment juste une réflexion qu'on peut avoir où on peut la contrôler dans les endroits. Par exemple, c'est sûr qu'à une plage, ce n'est pas super agréable d'avoir cette plante-là partout parce qu'elle prend toute la place. Ou dans un corridor nautique, par l'endroit où on passe avec l'embarcation qui va être tout le temps prise, nos pagaies vont être prises, le moteur et tout ça. Fait que peut-être que ça, c'est des... priorité, par exemple.
On a eu, on demeure au lac de Lys, à la paroisse de Disraeli, puis on a eu un plan d'intervention en matière de retrait de myriophylle à l'épi, puis ça a coûté quand même des gros sous, là, mais c'est un travail. On a eu des toiles détendues dans le fond, des endroits ciblés, puis des eaux de navigation, comme vous dites, puis il y a eu de l'arrachage à la main qui a été fait, parce que la plante, elle a envahi, puis là, si tu y mets des nutriments dans l'eau par les phosphores, puis ces choses-là, elle prend l'espace des autres espèces qui sont indigènes, là, qui sont normalement, qui devraient être là. Puis ça devient un problème, se baigner dans des îles. Les gens n'aiment pas ça. Puis, c'est pas juste ça, c'est une question de qualité de l'eau aussi.
Oui, puis la difficulté avec justement le contrôle des espèces exotiques envahissantes, c'est que si on ne change pas les pratiques sur le territoire, dans tout le bassin versant, on fait juste mettre un pansement, là, parce qu'on va enlever la plante, on ne sera pas capable de l'enlever à 100 %. Puis, si on continue à avoir autant de nutriments, comme on disait, qui se rend à l'eau, elle va revenir. Puis, c'est la première qui va revenir. Parce que l'espèce exotique envahissante, elle s'adapte plus facilement. C'est pour ça qu'elle est envahissante souvent. C'est qu'elle s'adapte plus facilement à des mauvaises conditions. Donc, c'est elle qui va reprendre la place probablement plus facilement. Pas dans tous les cas, là. Je ne veux pas généraliser, mais c'est souvent ça qu'on voit. Donc, c'est justement de voir, là, c'est quoi les priorités, puis agir à la source. C'est vraiment une chose très, très, très importante. Puis ça, c'est vraiment chaque personne, chaque organisation qui peut le faire. C'est vraiment là, vraiment super important parce que sinon, c'est ça, on... peut-être que ça va prendre un an.
On retourne en arrière si je...
Oui, ça va peut-être prendre un an, 10 ans, 20 ans, on le sait pas, mais ça va revenir. Tu sais, fait qu'il faut identifier le problème. Le problème, c'est pas c'est la plante en soi, mais elle est causée par quelque chose. Maintenant qu'elle est là, donc c'est d'identifier c'est quoi qui cause la prolifération de la plante, par exemple, ou de l'espèce animale aussi, là. Puis d'essayer de ne pas favoriser ces conditions-là pour elle.
Si tu aurais un changement climatique, on parle des changements climatiques, mais souvent quand les gens voient, on parle de changement climatique, c'est pas chez nous, c'est au bout du monde, c'est la sécheresse. C'est, on a eu, en 2026-24, on a eu des feux de forêt en Alberta qui nous ont influencés jusqu'ici, qui sont descendus jusqu'à New York. Pour à notre échelle de notre région, du bassin versant de la rivière Saint-François, c'est quel changement que votre organisme s'en venir, là, puis préoccupant là, pour vous, là, comme biologiste?
Bien, je dirais que les problèmes d'approvisionnement, c'est quand même une grande préoccupation parce que sur le territoire, on a une très grande partie de la population qui s'alimente en eau là, par des puits artésiens et encore, il y en a beaucoup encore en puits de surface aussi. Oui. Donc, c'est les premiers qui vont être touchés par ça. C'est des secteurs complets, des fois, là. C'est vraiment ça peut être plusieurs citoyens, mais aussi quand on pense, par exemple, à des producteurs agricoles qui, là, manquent d'eau pour soit alimenter leur bétail ou ça peut avoir des impacts, là. Ça fait effet boule de neige, là, parce que là, ça a des impacts vraiment à plus grande échelle. En contrepartie, il y a aussi les inondations. C'est un autre phénomène qu'on voit de plus en plus dans des endroits qui n'en avaient pas. La rivière Saint-François, il faut garder en tête qu'elle a plusieurs barrages. Là. Donc ça joue un rôle assez important. Pas nécessairement pour... ça n'augmente pas les inondations, là. C'est plutôt l'inverse. On est capable de gérer le niveau de l'eau. Okay. Là, c'est l'humain qui gère le niveau de l'eau le plus possible. Il y a une partie qu'on ne peut pas contrôler, mais la contrepartie de ça, ben, c'est que en le contrôlant, on ne veut pas non plus... Si on veut avoir moins d'impact pour ceux qui sont après le barrage, donc l'eau qui s'accumule, mais là, il faut ouvrir le barrage. Mais si on ouvre le barrage, là, on a l'impact sur ceux après. Donc, c'est vraiment toute une gestion. Puis, il y a les zones inondables, qui sont vraiment les zones là, en bordure de cours d'eau, de lacs, qui vont se retrouver inondées pour certains parfois, d'autres plus souvent.
Ici, dans la région?
Oui, il y en a beaucoup. Le Widun, là, est inondé assez fréquemment.
Le lac Louise.
Oui, lac Louise, vraiment souvent. Puis c'est les zones inondables, en fait, sont en train d'être révisées là, au niveau du gouvernement du Québec.
Une étude qui a été faite.
Oui, avec
là.
Des organisations aussi qui sont plus localisées sur le terrain. Là, nous, on est consultés pour ça aussi, mais c'est de redéfinir les zones inondables parce que ce qu'on a prévu il y a plusieurs années, là, n'est plus valide. Puis on ne voudrait pas. La problématique avec les zones inondables, c'est pas qu'il y a une inondation, c'est qu'il y a des bâtiments puis des infrastructures dans les inondations. Si l'inondation se fait dans une forêt où il y a personne qui habite, puis l'inondation sera pas permanente là. Dans quelques jours, elle sera plus là. La nature va reprendre son cours. La problématique, c'est qu'on a des infrastructures, des routes, des chemins de fer, des bâtiments dans les zones inondables. Puis là, c'est là qu'il y a, ça cause des torts à la population. Donc, on veut, dans le futur, réfléchir en ayant en tête les zones inondables sont plus grandes qu'on le pensait. Vaut mieux le prendre en compte, puis réfléchir là, pour l'aménagement du territoire avec ça.
Des zones tampons qui vont absorber ou comme ça, qui vont conserver l'eau pour être capable d'être écoulée graduellement. Oui. Et on a parlé aussi, souvent on oublie un aspect très important dans l'environnement, la préservation de nos milieux humides.
Oui.
Souvent, les gens arrivaient dans des endroits, puis c'est un milieu humide, on mettait de la terre, puis on bourrait ça, puis
c'est une swamp. On l'a fait souvent.
Oui,
on a de nombreux milieux humides même qui ont été considérés saccagé. Comme des vraiment des dépotoirs là, dans les années passées. Il y a quand même assez longtemps, je dois dire, la plupart ont été nettoyés, ont été remis en état, mais il en reste beaucoup, beaucoup qui ont été dégradés. Puis les milieux humides, leur rôle principal, le rôle principal, en fait, c'est ça, c'est la rétention de l'eau, la filtration de l'eau. Donc, tous les milieux humides, par exemple, qui sont riverains, donc qui sont vraiment en bordure d'un cours d'eau, bien, c'est des zones où le cours d'eau peut déborder, L'eau va y rester, la végétation qui est là, les plantes sont habituées d'avoir les pieds dans l'eau. Donc, elles vont survivre, elles vont absorber cette eau-là. Puis, quand la rivière va reprendre sa place, bien, eux autres, ils vont continuer leur vie là, comme si de rien n'était.
Ça fait des milliers d'années qu'ils sont là, se sont adaptés. Ouais. Ils se sont tous entrecroisés aussi, parce qu'une bande riveraine naturelle, là, c'est la forêt, les racines se sont toutes entrecroisées entre espèces, puis tout ça. Si tu brises ça, là, c'est dur à rétablir.
Oui, puis des rivières, c'est vivant. Là. Il y a d'ailleurs des projets là, qui s'appellent Laboratoire Rivière Vivante, là, mais c'est vraiment ça, de considérer le mouvement des rivières, parce qu'il y en a qui vont être plus mobiles que d'autres, donc qui vont être plus statiques, mais une rivière en ligne droite, là, ça n'arrive pas souvent. Puis ça peut arriver sur des tronçons, mais pas sur toute la rivière. On a beaucoup linéarisé des rivières là, dans le passé, des ruisseaux surtout, je dirais. Ouais. Mais ça, une rivière, ça bouge, donc ça se peut que sur 10-15 ans, la rivière, elle soit plus exactement à la même place. Puis
elle peut reprendre ses droits aussi. Souvent, les êtres humains, ce qu'ils ont fait sur une rivière, ils ont enterré, ils ont pris le lit de la rivière, puis ils ont contourné. Mais ça, la nature, avec les changements climatiques... Les rivières atmosphériques qui peuvent arriver un peu partout, là.
Oui, puis on a dans le passé, puis ça se fait encore, mais on veut stabiliser des fois la rivière, puis des fois on n'a pas le choix, là, quand il y a des enjeux de sécurité publique, par exemple, ou justement pour des bâtiments et tout ça. Mais si on empêche la rivière de bouger à un endroit, bien, elle va chercher à rebouger plus loin. Donc, encore une fois, on déplace un problème. Fait que c'est pour ça qu'en travaillant par bassin versant, comme on fait, puis comme de plus en plus les municipalités, les MRC, les organismes, travaillent comme ça, par bassin versant, sur leur territoire, fait que ça permet d'essayer là, de prévoir, en fait, les enjeux qu'on pourrait avoir, les problématiques qu'on pourrait causer en faisant une intervention. Donc, on ne veut pas intervenir puis causer un problème plus loin qu'on va devoir régler, puis c'est encore des sous.
Parce qu'il y a deux choses importantes, quand on a parlé de l'eau, on a parlé des bassins versants, mais... Il y a quelque chose qui nous intéresse à faire sur le bord d'un lac ou d'une rivière, c'est de pouvoir se baigner en toute sécurité, puis être agréable dans l'eau, puis aller chercher, taquiner le poisson dans l'eau.
Oui.
Fait que si on prend pas soin de l'eau, on peut tout perdre ça. Là. C'est le plaisir de la vie, là de partir avec ton petit-fils ou d'aller faire le tour d'un lac, puis d'aller te promener, là, puis vraiment pêcher, aller taquiner le poisson.
Oui, puis la qualité de l'eau, c'est un enjeu, bien, c'est une problématique importante qui préoccupe, je pense, tout le monde. C'est celle qui touche le plus les gens, parce qu'on est tous affectés par ça, d'une certaine façon, soit qu'on s'abreuve, ou soit justement qu'on se baigne, qu'on pêche. Les accès à l'eau, c'est aussi une problématique... que nous, on met de l'avant, puis pas seulement nous, là, les organismes de bassin versant de façon générale, mais de plus en plus les organisations aussi, de faciliter cet accès-là à l'eau, d'assurer que tout le monde puisse en profiter. On n'est pas tous riverains, puis on n'a pas tous une plage municipale, par exemple, dans notre municipalité. Donc, de faciliter cet accès-là de façon structurée, comme ça, on s'assure que les gens respectent.
Il y a des normes à respecter, là, pour les accès au lac,
exactement,
ou ces choses-là.
Au lieu, parce que les gens vont finir quand même par y aller. Donc, si on empêche, les lacs sont à tout le monde, là, c'est les berges qui peuvent être privées, si on empêche d'y accéder, les gens finissent par le faire quand même de façon un petit peu...
Délinquante.
Oui, c'est ça, puis des fois pas respectueuse, si c'est une personne, c'est pas si pire, mais si c'est 10, 20, 30, 200, ça finit que ça cause des problématiques un petit peu partout autour des lacs, donc d'avoir des accès structurés où on peut se rendre en sécurité, que les gens peuvent accéder et profiter. Puis, il n'y a rien de mieux là, que d'avoir accès à un lac, soit pour aller sur le lac, mais même ça peut être un parc, un sentier à proximité, un petit belvédère pour regarder. Donc, il n'y a pas de meilleure façon là, que d'avoir envie de le protéger que d'y accéder.
Quand tu y touches, tu promènes dans l'environnement, dans ce beau sentier sur le bord d'une rivière, comme à Disraeli, il y en a une sur le bord dans le coin du barrage.
Oui.
C'est super beau.
C'est super beau.
Tu prends conscience de la fragilité puis de la beauté de la nature, puis ça te fait du bien comme être humain, parce qu'on est, on a beau être évolué, mais on est toujours des animaux, des homo sapiens. Ça, on est dans l'imitateur des jeunes.
Oui, puis conserver, protéger, ça passe par avoir accès, là. Ça passe pas, on veut pas, on prône pas de mettre tout sous cloche de verre, là. C'est vraiment pas ça, le but. C'est vraiment de donner l'accès, puis que les gens aient envie, que ça perdure dans le temps, puis qu'ils puissent maintenir ces accès-là pendant très longtemps, puis que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent y avoir accès aussi plus tard.
J'ai un autre thème que j'aimerais aborder avec vous trois. Nos comportements face à la protection de la nature, on a un petit peu parlé. Cette section-là, ça porte sur nos comportements actifs ou inactifs en matière de conservation de nos milieux de vie. J'aimerais explorer avec vous deux les freins individuels et régionaux un peu à l'action. Moi, j'ai pris connaissance d'un ouvrage qui s'appelle « Comment garder espoir dans un monde en crise » du psychologue Marc-André Dufour, et puis qui parle des biais cognitifs, toutes sortes de façons qui fait que notre cerveau, notre mental, notre cognitif se donne des faux prétextes ou des fausses choses pour être capable de ne pas agir ou d'agir superficiellement pour se justifier. J'aimerais un petit peu qu'on parle de ça. Lui appelle ça les dragons de l'inaction. Exemple, la peur du changement, les croyances rigides, le stress quotidien et la foi aveugle en la technologie. Ah, la technologie, je vais tout arranger, puis on n'aura pas de problème, puis ça va être parfait, tout réglé. La tendance à nier aussi, à esquiver, à regarder ailleurs ou même de blâmer les autres, le gouvernement, la municipalité, la MRC, les biologistes, un petit peu ça que j'aimerais aborder avec toi. Ah, ça, on entend le son, c'est la cafetière qui vient de partir. Fait qu'on continue l'action. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on jase un petit peu. Ce serait quoi prendre conscience un petit peu de tout ça sans juger, sans un jugement de valeur ni un ton d'accusateur, mais un peu des impacts de nos gestes quotidiens et l'importance de passer à l'action dans des gestes là, que l'on fait.
Quand tu parles de freins, je regarde autour du lac Elgin, il y a eu un projet avec la municipalité pour changer les installations septiques. Et la municipalité a fait un prêt pour qu'on puisse, bon, d'abord déterminer quelles installations sont problématiques et pouvoir les changer sur un prêt qui se poursuit sur 20 ans. Alors, pour ma part, je n'avais pas une installation septique très, très nouvelle, là, ça faisait une quarantaine d'années, et j'ai dû la changer, mais c'est un frein important, ça.
L'argent,
c'est que j'ai 60 000 piastres à mettre là dans une installation comme ça. Le fait d'avoir un prêt à long terme m'a permis en tout cas d'avoir changé.
C'est sûr que il y a eu un article dans le journal Le Courrier Frontenac là, sur la paroisse de Disraeli, mais au nord de 23 installations septiques, c'est quand même important. Moi, personnellement, je suis très sensibilisé pour l'environnement. Je suis resté sur septique, là, mais je comprends là, comme
oui,
la
oui.
situation.
Qu'il y a c'est très aidant.
Important pour oui. renouveler son champ d'épuration et ces choses-là, surtout sur le bord en nature ou même au bord des lacs. Là, parce que du bord à nature, c'est les rivières, c'est l'autre chose.
Puis probablement que les riverains qui ont un puits et qui ont une installation septique personnelle, là, je ne sais pas si ça se dit, là, je ne dois pas être la seule à être très conscientisée. À un moment donné, il fallait que je fasse attention à l'installation septique. Tu te laves les cheveux là, dans la douche, puis tu fermes l'eau. Fait frette, mais regarde, c'est ça qu'il faut faire. Et ça permet d'être beaucoup plus conscient du trajet de l'eau, en fait.
Oui, puis les installations septiques, c'est vraiment, ça a un rôle vraiment important, en fait, sur la qualité de l'eau. Là, oui, pour les cours d'eau, mais aussi pour l'eau souterraine.
Aussi,
on
ne
veut
ouais.
pas contaminer là, l'eau souterraine, donc des installations qui sont non conformes, ça peut causer des problématiques quand même assez importantes. Mais il faut évidemment garder en tête les coûts. Justement, c'est à ça. Fait que je trouve que c'est une super belle initiative là, de la municipalité de permettre ça. Je l'ai pris en note et je vais essayer d'en parler à d'autres
avec
municipalités.
Avec les gouvernements, là, ouais. là, ça, c'est important parce que c'est sûr que Des fois, on arrive, on se construit, on achète un terrain, mais on peut avoir les moyens, mais si on n'a pas les moyens, puis on a des vieilles installations, c'est difficile, puis ça coûte très cher là, de faire ça.
Oui.
Mais c'est essentiel à quelque part. Là, c'est... Moi, ce que je pense aussi là, au niveau des comportements sur le bord d'un lac, c'est vrai. Moi, je parle au niveau de l'aménagement de la bande riveraine, d'y toucher le moins possible. Mon action, c'est un peu d'inaction, dis pas toucher.
quand c'est des nouvelles constructions, quand on a des vieux chalets sur le bord des lacs qui ont tout rasé puis qui ont mis de la belle pelouse, c'est plus difficile. Puis là, à ce moment-là, il peut y avoir un déni, une inaction. Ça a toujours été comme ça. Ça fait 70 ans qu'on est là et les gens ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de constater que les choses ont changé.
Puis quand là, on arrive sur une... En tout cas, moi, personnellement, exemple, on a la navigation autour d'un lac. De plus en plus, là, les gens vont avoir accès. C'est le lavage de ton embarcation est comme essentiel. Là, c'est une action que tu peux prendre. Au début, on entendait souvent, c'est long à laver, mais c'est pas si long que ça. Là. C'est juste de prendre conscience.
En fait, c'est changer les comportements. Comme quand on allait, les premières fois, on apportait nos sacs à l'épicerie, on se trouvait bizarre. Mais maintenant, ça fait partie de la vie courante. Là. C'est étonnant quand on va dans un endroit qui a encore des sacs.
Quand on va à l'extérieur, exemple, le compost, là, on a le compost, on a les vidanges, on a le compost municipal. Mais quand tu fais juste la trier ça au fur et à mesure, c'est épouvantable la quantité de vidange que tu ne produis plus pour aller au vidange, au dépotoir, essayer de réduire ça. Et puis quand le compost, là, ça tu réduis de deux tiers tes vidanges.
Pour revenir à l'eau, ça me fait prendre conscience que les installations septiques qui ne sont pas conformes ou toute autre action dont on ne connaît pas les conséquences peuvent avoir un effet sur la nappe phréatique. Ça, c'est comme nouveau pour moi de considérer l'eau comme... Tu sais, on parlait d'être interrelié, là. Pour moi, c'est nouveau. Alors, puis je suis déjà quand même assez conscientisée. Fait que j'imagine que la majorité des gens sont pas si conscients de ça.
Oui, en fait, la nappe phréatique, l'eau souterraine, communique avec l'eau de surface. En fait, il y a des zones où l'eau de l'eau souterraine va... être en résurgence, qu'on dit. Donc, elle revient à la surface. Puis ça, c'est nos lacs et nos cours d'eau. Puis à l'inverse, on a la recharge de la nappe phréatique par la pluie, par des milieux humides. Donc, sont vraiment interconnectés. L'avantage de l'eau souterraine, c'est qu'il y a vraiment de l'eau profonde là, qui s'écoule sur le roc, là, puis qui provient d'eau qui s'écoule depuis des centaines d'années, des milliers d'années. Donc, le risque de contamination est plus faible de l'eau de la nappe phréatique, mais elle est quand même là. Surtout si on a des puits, par exemple, d'eau de surface qui sont vraiment plus comme une petite résurgence, là, justement, d'eau souterraine. On peut contaminer avec son installation septique son propre puits. Tu sais, si notre installation septique elle est pas conforme, puis que notre puits est pas assez loin ou qu'il est pas, qu'il est pas fait selon les normes non plus, on peut s'auto-contaminer. Donc là, il peut avoir quand même des conséquences importantes. Puis qu'est-ce qu'on constate aussi en lien avec les puits, c'est que les gens ne les font pas tester souvent. Puis c'est tout à fait pour avoir grandi là, dans une propriété avec un puits. On ne l'a jamais fait tester non plus pendant que j'habitais là. Donc, c'est quelque chose qu'on ne pense pas nécessairement. Puis les gens ne seront pas nécessairement malades non plus. Hein. Il y a des éléments dans l'eau d'un puits qu'on peut avoir. Si on pense ici, dans le coin ici, c'est moins pire, mais dans le coin en Estrie, là, il y a beaucoup de manganèse, beaucoup d'arsenic dans certains secteurs. Ça goûte pas, ça sent pas, puis c'est pas dangereux à court terme, mais lorsqu'on consomme cette eau-là tout le temps, ça peut avoir des impacts.
Ouais.
Puis il y en a qui vont... Quand on contamine, par exemple, avec son puits ou avec d'autres composantes là, de matière de coliformes fécaux qu'on appelle, donc vraiment plus les... les déjections, soit d'animaux ou d'humains, à ce moment-là, souvent, les gens sont rendus habitués de boire cette eau-là puis ne seront pas nécessairement malades.
Ben, c'est quelqu'un d'extérieur.
C'est quand quelqu'un vient à la maison qui est malade ou une personne qui a une santé plus fragile qui, là, va être malade puis ne saura pas pourquoi. Donc, c'est des choses qui peuvent nous alerter. Mais c'est ça, on a beaucoup de projets en ce moment. On parlait tout à l'heure de projets avec des municipalités, mais on fait ça là, avec certaines municipalités actuellement, de les accompagner, de faciliter le lien avec le laboratoire pour analyser l'eau. Puis les citoyens doivent échantillonner leur eau au robinet ou à la sortie de leur puits. Puis c'est envoyé au laboratoire, puis nous, on leur vulgarise les résultats, puis on leur donne les recommandations.
Et c'est fait avec les municipalités,
ça? Oui, avec les municipalités, ouais. Généralement, parce que c'est facilitant. Les municipalités, souvent, vont être le point de chute aussi pour les bouteilles, pour envoyer au laboratoire. Puis, ils ont un contact direct avec leur population.
Ouais.
Comme je disais au début, nous, on n'a pas un contact avec les citoyens beaucoup. T'sais, on n'a pas le courriel, on n'appelle pas tout le monde. Donc, on travaille avec les municipalités, puis elles ont leur
réseau.
Ouais, leur réseau, que ce soit des babillards, que ce soit le conseil municipal. Donc, il y a plein de façons là, d'informer la population, des infolettres.
J'aimerais ça savoir, à nous trois, là, un geste là, qu'on, en parlant, en réfléchissant, qu'on peut poser ou qu'on a posé qui pourrait faire une petite différence au niveau de notre action ou de notre inaction. On ne change rien, on change des petites choses. Moi, j'en ai un, si vous me permettez, ce que je commence. Ça paraît un petit peu insignifiant. Avant, quand j'étais jeune, on laissait couler l'eau au robinet pour prendre un verre d'eau. On la laissait couler longtemps pour qu'elle vienne fraîche. OK?
Ouais.
Mais là, à un moment donné, ça n'a pas de sens. Fait que moi, j'ai commencé à apprendre, parce que moi, j'ai un puits. L'année passée, on a commencé vraiment à ressentir, pas chez nous, mais être conscient de les maps phréatiques. Fait que j'ai décidé on s'est acheté un pichet. Au lieu de laisser couler l'eau, je remplis mon pichet et je le laisse au frigo. Fait que de même, là, ça semble un petit peu anodin, là, mais à chaque fois que je prends de l'eau, au lieu de laisser couler l'eau 2 minutes, ben je prends l'eau, un verre d'eau dans mon pichet, je le mets au frigo et puis je viens de préserver de l'eau. Fermer l'eau chaude quand on prend notre douche, c'est une autre façon d'économiser les choses.
Ça frette, par exemple.
Ouais.
Oui.
Bien, tantôt, quand on a évoqué ça, ça serait quoi les gestes qu'on pourrait poser? Je me disais, ben pas grand-chose. Moi, il me semble que je fais déjà très attention, mais ben non. Parce que tu as parlé des gouttières tantôt. Mm-hmm. Moi, c'est une construction quand même, c'est une rénovation, et j'en ai pas de gouttières. Puis il faut que j'en pose, là. Et c'est mon prochain projet.
Distribuer l'eau sur ton terrain pour
possiblement, en tout cas, ça, parce que le terrain était un peu en pente, je pense que c'était pas une bonne idée de pas mettre de gouttière, de pas rediriger l'eau, justement, ou avoir un gros bac là, pour la
conserver.
La conserver.
Ça, c'est la meilleure option, ouais. Mais des gouttières qui redistribuent de façon adéquate, ça peut être un bon compromis. C'est deux belles suggestions, je trouve. Puis en fait, ils ont le même objectif, là. C'est que l'eau qu'on utilise va être rejetée dans le milieu. Ouais. Dans les endroits où on a, par exemple, une station de traitement des eaux usées, bien, elle va passer par la station. Donc, plus qu'on envoie d'eau à la station, plus qu'on doit la traiter, plus ça coûte cher aussi. Et c'est là qu'on va avoir parfois des stations, des réseaux qui ne vont pas fournir. Puis qu'on va avoir des débordements. Puis dans les secteurs où il n'y a pas de réseau, bien à ce moment-là, c'est les fossés, les cours d'eau, ça va directement dans les cours d'eau sans traitement ou dans les installations septiques pour les eaux là, vraiment de la salle de bain et tout ça.
Parce que l'eau qu'on rejette, elle continue à vivre.
Oui, elle n'est jamais arrêtée. Elle va être nettoyée dans le cas de l'eau domestique de maison, puis les fossés et tout ça, ça va s'écouler directement dans les cours d'eau sans traitement. Donc, si on est capable de l'eau de nos gouttières, bien, de la récupérer puis de la réutiliser, par exemple, dans notre jardin et tout ça, c'est vraiment l'idéal. Mais si ce n'est pas quelque chose qui est possible pour nous, on peut justement s'assurer juste qu'elle est bien distribuée, soit sur notre terrain, dans un petit secteur. Ça ne veut pas dire de la retenir à 100 %. C'est normal qu'il y en ait qui s'écoulent vers la rue ou vers le fossé. C'est normal, mais de façon minimale, d'essayer au moins que notre gouttière ne soit pas directement dans notre cours en asphalte, puis que ça en va vers le cours, vers la rue et ultimement vers le cours d'eau. Ça, c'est un petit geste qu'on peut poser qui fait une différence.
OK. Puis, pour maintenant, le temps a passé là, quand même, ça fait un petit bout qu'on jase ensemble. J'aimerais ça, Anne, que tu puisses, pour conclure, tu aurais une conclusion que tu pourrais apporter par rapport à la rencontre qu'on a eue aujourd'hui pour discuter la journée de la Terre, mais vraiment terre à terre avec, en fonction de nos vies, de qu'est-ce qu'on perçoit, puis qu'est-ce qu'on connaît, puis notre vouloir de changer les choses positivement.
Le message que je retiens quand même, on en a parlé, mais celui que je trouve le plus important à apporter, c'est qu'on a tous la capacité de faire quelque chose, mais il faut le faire à notre rythme, à notre échelle aussi. On parlait des organisations qui ont un rôle à jouer, oui, c'est certain, puis peut-être que c'est un rôle à plus grande échelle. Mais en tant que citoyen, on a un rôle aussi important, que ce soit dans les petits gestes du quotidien, comme on parlait de l'eau, ouais. À la salle de bain, à la maison, ou à l'extérieur, d'aménager son terrain pour permettre des zones plus végétales ou au moins qui retiennent l'eau. Mais il y a aussi, on peut faire aussi nos choix, là, tu sais, c'est... Je suis pas du tout dans un discours politique là, mais d'exprimer nos préoccupations, que ça soit notre municipalité, que ça soit dans le cadre des élections, quand on est des gens, mais de juste s'informer, d'être conscient de nos impacts, d'essayer de penser par bassin versant. Ça, c'est pas facile. C'est un changement qui se fait pas facilement, mais je vous invite à juste identifier là, vous êtes où dans le bassin versant, puis de voir l'eau qui s'écoule, tu sais, l'eau de chez vous s'écoule vers où, et l'eau des autres qui s'écoule vers chez vous, tu sais, juste voir, des fois c'est petit, c'est une petite superficie, et des fois c'est assez grand, puis c'est quand même assez impressionnant de voir là jusqu'où ça s'écoule. Donc, je pense que c'est à la portée de tous là, de faire des petits gestes, puis au final, ils s'accumulent ces gestes-là, puis on la voit la différence.
À l'individuel, c'est petit, ça nous semble petit. Mais collectivement, si on fait juste préserver l'eau, on préserve la ressource.
Oui, puis profitez aussi. Quand vous avez accès là, à un plan d'eau, profitez-en, puis admirez là, à quoi ça ressemble. Puis, c'est vraiment, ça fait toute une différence là, quand on voit vraiment c'est quoi que ça inclut, là, tout cet écosystème-là, puis tous les bénéfices qu'on peut aussi en tirer, puis l'impact qu'on peut avoir.
Toi, Suzanne, ça serait quoi ton
Je pense que ça a été dit aussi de réaliser que tout est interrelié. Ce que je fais, et comme chez nous, sur le bord du lac, ben on est au bout de la chaîne, en fait, quand on est rendu dans le lac, là. Mais tout ce qui se fait au niveau forestier, ça a un effet important. Tu parlais de la voirie, et c'est ça, des gestes individuels, mais tout est interrelié. Moi, ça me frappe encore plus aujourd'hui, je dirais.
Bien, moi, ce que j'ai apprécié la journée aujourd'hui de cette rencontre-là, c'est que ça nous... On règle pas tous les problèmes, mais on discute, on apprend à connaître mieux les organismes comme le tien, Anne, et puis voir un peu comment nos gestes au quotidien peuvent s'impliquer, peuvent simplement agir sur notre environnement immédiat, mais ça a un impact un petit peu partout. Puis la journée de la Terre, bien, c'est une façon de réfléchir à l'espace que moi, ma famille, notre monde prennent dans cet espace-là. Puis qu'on est tous interreliés, qu'on soit ici ou qu'on soit au bout du monde. Là. Tôt ou tard, la Terre est ronde. Puis on l'a vu avec Artemis qui est allé voir ça avec une photo de la Lune puis de la Terre au bout. Ça, c'est notre maison à tous. Puis c'est un petit peu sur ça que j'aimerais terminer par rapport à cette activité-là, ce balado-là. Merci beaucoup. Madame Anne Bolduc, vous êtes venue aujourd'hui vous présenter et présenter votre organisme. Ça a été très apprécié. Moi, je voudrais remercier aussi mon amie Suzanne Saint-Pierre d'être présente ici avec nous pour ce balado. Et j'aimerais aussi remercier Louise Couture qui est à l'assistance technique là, pour la réalisation du balado. Pour ne rien manquer des prochaines rencontres, sachez que notre balado est disponible sur des applications d'écoute préférées, ainsi que sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner pour rester branché sur votre communauté. Si vous avez des idées de balado, des sujets inspirants, des histoires locales à nous raconter, contactez-nous à l'escouade journalistique J55 du Journal de Cantonnier de Disraeli. D'ici là, à notre prochain balado, bonne journée et au plaisir de vous revoir.
Le balado du Cantonnier, une production locale de votre escouade journalistique 55 pour le territoire de la ville de Disraeli et des municipalités avoisinantes des MRC, des Appalaches et du Granit. Merci de nous avoir accueillis chez vous. À la prochaine! N'oubliez pas de lire notre prochaine publication dans la page Sereinement actif du journal.